Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une semaine, dimanche dernier, souvenez-vous, nous nous faisions aimablement insulter par un prophète en grande forme, Jean-Baptiste, décidé à nous remettre en place. Souvenez, engeance de vipère, tout ça. Hein ? Et la liturgie, qui ne manque pas d'esprit, nous le fait rencontrer encore aujourd'hui, une semaine après, mais cette fois-ci croupissant dans la cellule d'une prison, en proie à une interrogation brûlante. Il se demande le sens de son combat avec Olivier Giroud avant de mettre le deuxième but, avec saint Paul l'apôtre qu'il écrit aux Philippiens en 3,14, il se dit « Je cours droit au but pour remporter le prix auquel Dieu m'a appelé. Mais est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout ? Suis-je vraiment à deux doigts de la victoire ? N'ai-je pas couru en vain ?» Je voudrais vous inviter à mesurer la portée de la question qu'il fait présenter à Jésus, vous faire saisir combien elle peut nous rejoindre, nous qui sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Comme celle de dimanche dernier, cette question, elle regarde davantage ceux qui ont commencé à croire, qui se sont engagés sur le chemin de la foi, et c'est notre cas. Tôt ou tard, consciemment ou non, ne sommes-nous pas confrontés à cette interrogation qui pourrait être prise à tort pour un doute ? Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Traduisons ainsi. Dois-je à nouveau croire en celui en qui j'ai commencé à mettre ma foi ? Ça fait des années que je m'emploie à écouter la parole de Dieu, à croire, à essayer de traduire cette foi en actes. Et maintenant, voici qu'on me dit qu'il est là, présent. Qu'est-ce que cela signifie ? Celui que je prêche, que j'annonce, que j'espère, à qui j'ai consacré ma vie, à deux pas d'ici. Le roc sur lequel est fondé mon mariage, dont j'ai appris le nom unique à mes enfants. Celui que je viens ici célébrer chaque dimanche, qui m'a pardonné tant de péchés, à qui j'ai su rendre grâce à certaines heures. Celui dont je suis convaincu de l'existence historique, de la messianité, que je reconnais comme fils du Père, celui-ci serait si proche actuellement là. J'aimerais, je veux y croire. Mais j'ai subitement peur d'être déçu. Alors du fond de l'ombre où je me tiens, je me permets de lui poser une dernière fois la question au Seigneur. Au Seigneur, toi qui es parmi nous en chair et en os, es-tu celui en qui je crois de toute mon âme ? Demande Jean. Et il nous donne, en quelque sorte, la permission de le demander au Seigneur à certaines heures. Frères et sœurs, qui ne s'est jamais demandé un jour si la foi dans laquelle il s'était engagé jusqu'ici n'était qu'une illusion ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais eu cette question ? Vous me rassurez ? Je me souviens de la surprise que suscita la question sincère, presque ingénue, d'un adolescent lors des, vous savez, les camps que nous organisons l'été à une jeune petite sœur, une religieuse. On leur avait dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ma sœur, ça ne vous dérange pas d'avoir engagé toute votre vie sur une hypothèse ? Ah, faut répondre après. C'est l'occasion de professer sa foi, de dire que bien sûr, notre foi est purifiée par des interrogations que nous posons au Seigneur, mais qu'elle n'est pas fondée sur un doute, sur une profonde conviction de la présence réelle du Seigneur. Et c'est ici qu'il faut comprendre que, pour le dire ainsi, ce ne sont pas les premiers pas de la foi qui coûtent, mais les derniers. Il faut bien comprendre ça. Il y a un proverbe chinois, je trouve que sa saveur est toute évangélique, qui traduit ce que je veux exprimer ici, qui dit ceci, « Celui qui cherche Dieu et qui vend tout ce qu'il a sauf le dernier sou, celui-là est bien fou, car c'est avec le dernier sou qu'on trouve Dieu. » D'une certaine façon, Jean-Baptiste est en train de payer son dernier sou, de franchir la dernière étape de sa recherche de Dieu. Et je crois qu'en nous faisant partager l'inquiétude du précurseur, la liturgie nous délivre, en ce troisième dimanche de l'Avent, une part du secret de la joie chrétienne, ou plus exactement de sa plénitude. En effet, rappelons-nous que Jean-Baptiste reste habité en juif fidèle par le souvenir des hauts faits de Dieu. Il a le sens de la mémoire en bon juif. D'ailleurs, cette mémoire de la puissance de Dieu déployée dans l'histoire d'Israël, c'est cette mémoire qui lui fait espérer ce qu'Isaïe promet. Voici votre Dieu, la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Lorsqu'il a fait cela, il va continuer à le faire. Au sens littéral, Jean était enthousiasmé, c'est-à-dire rempli de l'Esprit de Dieu, à l'idée de savoir que Dieu va intervenir comme il l'a déjà fait, et de façon encore plus définitive. Mais ces souvenirs, réjouissants par les perspectives qu'ils font espérer, sont tempérés par cette nouvelle inquiétude. Que me manque-t-il encore pour espérer vraiment ? Il y a de discerner encore sa présence actuelle, sous les traits imprévisibles de son incarnation. Voilà une difficulté que nous pouvons rencontrer dans notre vie de foi. Et notre joie de croire peut longtemps rester médiocre si elle se limite à une certaine forme de nostalgie mêlée à l'espoir que ça ira mieux demain. Je veux dire par là qu'elle oscille simplement entre le passé et le futur, sans oser se confronter au présent, que notre foi préfère les belles idées générales, mais ne sait plus discerner l'œuvre présente de la grâce en ce monde. Et voyez, la réponse de Jésus aux précurseurs et à nous-mêmes ne se fait pas attendre. Il les renvoie à ce qu'il faut voir actuellement, maintenant, aller rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez aujourd'hui. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. C'est maintenant que ça se passe. C'est ça qu'il faut regarder, même s'il faut faire mémoire, l'actualité de la grâce. S'il faut célébrer la venue historique du Seigneur, attendre son retour dans la gloire, l'essentiel manque à notre foi et donc à notre joie si sa présence actuelle échappe à nos yeux. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi peut signifier en ce sens, heureux celui qui ne manque pas de discerner en moi la présence réelle, immédiate de Dieu. Vous voyez, le Seigneur l'invite à un ultime sursaut dans sa foi, un dernier pas, et c'est le plus coûteux. Pour achever de le disposer au martyr, il ne s'agit pas de reconnaître que Dieu, il ne s'agit pas de reconnaître que Dieu a fait ceci ou cela seulement, mais de reconnaître qu'il est là, en Jésus de Nazareth. Ce progrès spirituel regarde le temps présent et nous sommes tous appelés à le réaliser en essayant de poser un regard de foi non seulement en arrière et en avant, mais aussi alentour. À ne plus se limiter d'un côté à ce que Dieu a fait de grand dans l'histoire, la mémoire de la nativité évoquée par nos crèches, il était une fois, il y a fort longtemps, dans un petit village près de Jérusalem, dans notre propre vie. Ah, ma première communion, mes premiers élans de la foi quand j'étais plus jeune. Puis de regarder de l'autre côté le vague horizon de notre mort, du grand rendez-vous de la fin des temps. Nous procrastinons un petit peu, un jour je donnerai mon cœur à Dieu. Non, il faut dépasser l'espérance des lendemains qui chantent et ses souvenirs plus ou moins enjolivés pour oser percevoir. Ça demande plus de courage. La présence et l'action immédiate de Jésus-Christ. Et en cela, on peut dire qu'on essaie de discerner au moment où nous parlons, au moment où nous vivons, dans le présent, la douce vengeance de Dieu qui s'accomplit. Pour reprendre les termes même de l'Écriture. Dieu qui se venge et continue de se venger, comment ? En suscitant un peuple ardent à faire le bien. En rendant possible l'amour inconditionnel, la divine charité et sa présence réelle dans l'Eucharistie, dans sa parole vivante, dans chacune de nos âmes en communion avec lui, sont une sainte revanche de sa part. Les saints, pourrait-on dire, sont la revanche de Dieu. Et nous pouvons discerner cette sainteté dans les personnes que nous rencontrons. Vous me direz que ce n'est pas toujours évident. ça demande précisément ce dernier sursaut de la foi, un effort, accorder un dernier crédit, payer un dernier sou. Et si vous voulez voir des boiteux qui se mettent à marcher de nouveau, des lépreux être purifiés, des morts ressuscités, eh bien il faut plonger au cœur de la vie de l'Église. Je dis bien au cœur, ne pas s'arrêter à son écorce, à la triste actualité où l'on voit ce que les hommes font de l'Église, qui est le plan de Dieu. Mais aller plus loin, plus profondément, dans la véritable actualité, qui est celle de la grâce, où l'on voit l'Église travailler le cœur des hommes. Par exemple, mais c'est un exemple simple, si vous rencontrez, moi j'en ai la grâce comme curé, et je vous invite à faire de même, en plus ils se sentiront bien accueillis, si vous prenez la peine, ça demande un effort, de rencontrer chacun des catéchumènes, adultes et adolescents de notre paroisse, qui se préparent aujourd'hui au baptême, vous verrez en chacun d'entre eux un petit miracle et l'accomplissement des promesses d'Isaïe. Oui, chers amis, bienheureux ceux qui entrevoient avec les yeux de la foi cette revanche que prend l'amour du Tout-Puissant. Depuis l'Eucharistie et la réconciliation, où elle jaillit en abondance, voici que cet amour s'étend dans les moindres recoins de la vie humaine et baigne l'univers de la divine miséricorde. Inondation invisible de la grâce que perçoivent ceux qui sont décidés à croire jusqu'au bout, à se laisser combler de joie jusque-là. Avec la Vierge Marie, frères et sœurs, premier tabernacle du Dieu vivant, apprenons à nous rendre plus sensibles à la présence réelle du Christ dans la vie actuelle de l'Église, à vivre dans cette conscience émerveillée. C'est peut-être là le dernier pas, le dernier sou qui manquait à notre foi autant qu'à notre joie. Et qu'il importe de toute façon de franchir à nouveau au début de toute année chrétienne, en recouvrant un cœur d'enfant. En tout cas, c'est à ce prix que nous pouvons espérer atteindre la pleine dimension de la joie chrétienne, cette joie propre aux disciples qui savent ce qui se passe, cette joie que nul ne saurait nous ravir, cette joie qui, après nous avoir nous-mêmes conquis, pourrait bien gagner ce triste monde. Amen.